10h39, on vous parle du Carnaval de Québec. Tu vas-tu aller faire un tour?
Je fais toujours un tour au Carnaval. Je trouve ça magique.
Ça commence bientôt. Une visite au Carnaval ne serait pas complète sans assister au légendaire défilé de nuit du Carnaval de Québec. Si tu veux y aller en famille et rentrer à la maison plutôt pour les chocolats chauds en famille, c'est le samedi 8 février sur la 3e avenue à Limoilou. Ça va être dès 17h30 qu'il faut y aller. Si tu veux profiter d'une belle soirée festive entre amis, rendez-vous sur la Grande Allée à 19h. Ensuite, le samedi 15 février, il y a près de 300 artistes qui vont être là, des performances, des chars allégoriques éblouissants, et tout ça, c'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien si vous allez vous présenter là ces soirs-là. Tous les détails sont au carnaval.qc.ca, et comme le carnaval nous suggère cette année, du 7 au 16 février, envoyez dehors! Pour plus d'informations, ben, rendez-vous au carnaval.qc.ca. Quelle température il fait dehors, là? C'est comme confortable. Les vents ne se sont pas levés encore.
Non, c'est encore pas si pire, honnêtement. Là. C'est cet après-midi dit que ça risque d'être un peu plus difficile ce soir aussi. Là, si vous êtes sur la route, mettons qu'il annonce la neige.
On parle de bourrasques de neige et de poudrerie, des rafales à 80 km/h, un maximum de moins 2 pour ce qui est d'aujourd'hui. Un genre de 5 à 10 cm annoncé pour demain mardi. Ce sera de la neige intermittente qui devrait cesser en matinée avec de la poudrerie au travers de ça, des températures stables après de moins 13 degrés. Donc voilà. Danny Morissette, ex à la Sûreté du Québec au crime majeur. On parle de la déjudiciarisation de certaines drogues aujourd'hui avec lui. Salut, Danny.
Hey, salut tout le monde.
Content de te revoir, mon ami.
Ben oui, bon retour de vacances.
Ah, merci. C'était pas des vacances, je m'occupais de mes enfants.
Et il nous a écoutés toute la semaine, il commentait nos affaires.
Ben oui.
Et on se demandait ce qu'il faisait, c'est même pointé à bête ici vendredi. Après moi, c'était pas fait pour lui, les vacances.
Quand j'allais chercher mes gars, il fallait que j'embarque dans la voiture, fait que j'écoutais ma station de radio. Je pense que c'est la chose à faire. Fait que je participais aux discussions, là. Je leur écrivais.
Fait que tu viens au travail t'as reposé, là.
Exact.
C'est ça qu'ils disent, les gars à station qui ont des enfants. Ils ont tous le même discours.
Je vois, Danny, c'est comme ça passer là, à Orsainville, ça brasse en sacrifice. Les gars sont en lockdown. En fait, c'est les agents qui travaillent là qui ont dit non, nous, on a de l'information comme quoi il y a une arme à feu qui aurait été livrée par drone dans les dernières heures. Puis, on ne veut pas risquer nos vies. Puis, tant aussi longtemps qu'on ne fouillera pas la prison au grand complet, on les laisse en lockdown. Donc, les gars qui sont incarcérés là n'ont pas le droit de sortir et seraient nourris par le personnel de gestion. Parce qu'eux autres ne sont pas syndiqués. Là. Mmh. Fait que les syndiqués, eux autres, ne veulent pas travailler. Ils sont là, mais ils ne travaillent pas. Puis les gens de gestion, eux, nourrissent les détenus qui ont à nourrir. C'est assez particulier comme situation. Hein.
Écoute, j'ai entendu parler de l'arme à feu qui aurait été livrée par drone, mais concernant la nourriture, puis le droit des détenus, puis de la façon qu'ils sont traités, ça, par contre, je suis moins au courant.
Il y a un agent qui aurait été visé. Ça fait partie du pourquoi aussi. Là, ils veulent pas entrer dans l'aile un agent parce qu'on ne sait pas c'est lequel qui est visé. Là. Fait que ça a l'air de faire partie du pourquoi aussi on les restreint à ce point-là. Là.
C'est les technologies aussi. Des technologies qui sont assez faciles à contrer aux États-Unis. Je pense que je t'en avais parlé. Aux abords des aéroports puis proche des centres de détention, on utilise des oiseaux de proie.
Ah oui?
Donc, les oiseaux de proie, s'ils voient un drone, eux ont été formés pour aller chercher le drone puis le ramener dans un endroit où il va pouvoir le déposer pour ensuite avoir sa souris. C'est comme ça qu'on les nourrit, qu'on les entraîne. Fait que lui, il voit un drone passer, il part, il s'en va chercher le drone, il le ramène dans la chute à déchets, à chute à drone.
Ouais.
Puis après ça, il y a sa petite surprise. Ça coûte 2-3 000 $ la formation de ce type d'oiseau de proie-là. Puis au Québec, on n'a jamais décidé d'embarquer là-dedans alors que ce serait si simple. Si simple d'intercepter tous les drones dans ces secteurs-là. C'est pas si compliqué que ça. Là. Mais on dirait que le Québec, on est toujours à la remorque de tout.
Absolument. Puis, tu sais, on parle de drones, tout ça. Moi, je me souviens, en passant dans ton dossier, l'arme à feu, je suis pas au courant, ça a été récupéré.
Pas encore.
Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'actuellement, à la prison d'Orsainville, il y a une arme à feu, possiblement entre les mains de détenus, qui n'a pas encore été retrouvé.
Il y aurait une arme à feu, puis l'aile du BFM a été complètement fouillée et ils n'ont rien trouvé.
OK.
Fait que c'est pour ça que les gars sont en panique, là, parce qu'il est supposé d'avoir une arme à feu là. À savoir si ils vont réussir à la trouver, c'est une autre histoire. Mais pourquoi on est aussi à la remorque? Est-ce que nos services policiers, au niveau des technologies, là, est-ce qu'on est à la remorque aussi des autres endroits dans le monde où on est vraiment à la fine pointe, là?
Moi, je pense pas, c'est Danny qui parle, là, qu'on est à la fine pointe, ne serait-ce que par la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les radios-télécommunications. Je suis rentré à la Sûreté du Québec dans les années 90. On avait des radios où c'est que c'était des téléphones à l'intérieur des véhicules, pour ceux qui se rappellent, le téléphone noir, où c'est qu'on répondait au répartiteur.
Avec un fil.
Avec un fil. Mais je vous le dis, en 2025, on a encore ça. Donc, on n'a pas évolué. Puis souvent, on travaille en partenariat avec d'autres services de police. C'est qu'on voit leur équipement, puis on se dit, ouais, on fait dur un peu, là.
Ouais. Dans les véhicules de patrouille, est-ce que vous avez le droit de prendre votre cellulaire personnel? Oui,
oui. On se sert beaucoup plus de notre cellulaire personnel maintenant quand on veut parler avec le répartiteur, quand on veut avoir plus d'informations sur une situation que passer directement par les ondes.
OK.
Ouais.
Essayez-vous de faire attention, étant donné qu'on n'a techniquement pas le droit de téléphone au volant?
Les policiers ont le droit.
Nous, on a une exemption, oui.
Mais il y avait pas... Oui, mais je sais que vous avez une exemption, mais c'est-tu une exemption limitée ou c'est en tout temps, mettons?
Ben, en fait, il faut qu'on soit vraiment dans un cadre légal suite à une intervention ou au moment d'une intervention. Mais si, admettons, on veut parler à notre conjointe alors qu'on est en travail et on circule sur la route, là, ça va être proscrit, évidemment.
OK.
Faire preuve de bon jugement.
C'est ça.
Voilà. Aujourd'hui, on parle de déjudiciarisation de certaines drogues dures. Est-ce que toi, personnellement, t'es favorable à ça, à la déjudiciarisation de certaines drogues dures?
J'avais peur que tu me poses cette question-là, mais je m'y attendais.
T'es évidente puis, quand même.
Oui, t'as été évidente. Quand j'ai commencé le sujet, je me suis dit « oh boy ». Parce qu'effectivement, si je parle de ce sujet-là, je veux pas non plus dire aux gens « hey, à partir de maintenant... » Si vous avez 2,5 grammes et moins de cocaïne entre les poches, dans les poches, ben, il n'y a plus de problème. Vous ne serez pas, condamné pour ça. Mm. C'est loin d'être le cas. Est-ce que je suis pour ou contre? Écoute, je vais y aller avec un exemple concret que j'ai vécu, puis vous allez comprendre un peu mon opinion, parce que je suis quand même très prudent. C'est un sujet qui est délicat. Et surtout, c'est un sujet où les policiers et les services médicaux n'ont pas été mis au courant, qui étaient passés par le ministre Simon Jolin Barrette, à l'époque, un peu en dessous de la couverte, qu'on a appris après coup comme policier. Donc, la première des choses à retenir, on parle de déjudiciarisation et de décriminalisation.
Hey, c'est lundi, c'est
quand même. Je vous aide.
Voyons, tabarnouche. Criminalisation. Décriminalisation.
Voilà. Ouais. Et non de la légalisation. On s'entend, la drogue, c'est illégal, à part le pot. Quand on parle de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine, c'est entre autres les trois types de drogue qu'on va parler aujourd'hui, c'est toujours illégal d'en avoir. Maintenant, donc si vous en avez, vous allez vous faire arrêter, c'est ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que vous allez être condamné en bout de ligne? C'est ce que je vais vous expliquer par cet exemple, avec l'exemple.
Moi, de légaliser ces drogues-là, qui sont des drogues dures, là, je suis totalement contre ça. Le gouvernement fait des pieds et des mains pour essayer d'analyser tout ce qu'on peut mettre dans la nourriture pour pas que ça soit toxique pour ceux qui vont manger cette nourriture-là. Mais de l'autre côté, on va permettre à des gens de consommer cette drogue-là qui est extrêmement dangereuse, qui va créer des ravages dans leur cerveau. Mm-hmm. Puis on n'en fera plus de cas juste parce que la loi n'est pas capable de suivre. Si on les arrête toutes, Yann, il va y avoir beaucoup trop de monde dans les pénitenciers. On n'a pas assez de place. Si on les arrête toutes, Yann, on n'aura pas assez de juges pour juger toutes les causes. Oui, mais regardez ce que ça donne dans certains secteurs de Los Angeles. Regardez ce que ça donne à Toronto dans certains secteurs, à Vancouver dans certains secteurs. C'est des quartiers de zombies où les gens, ils vont même plus parce qu'ils sont extrêmement dangereux.
C'est aussi, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas capable de se gérer, là.
On n'est pas capable de gérer, donc on devient un peu plus lousse sur certains trucs. Mais de voir ces secteurs-là où on abandonne carrément ceux qui ont pris ces drogues-là, puis ils dorment dans la rue, puis ils meurent dans la rue, je trouve ça épouvantable. Puis oui, parfois, il faut aider les gens à se protéger contre eux-mêmes. Puis ces gens-là consomment ces dopes-là, puis ils devraient avoir des conséquences, puis les aider. Une fois qu'ils sont rendus entre les murs, bien, les aider à se désintoxifier avec des professionnels qui sont là, qui peuvent les aider tant au niveau des médicaments à prendre pour se détoxifier de ça, puis enlever la dépendance, puis de l'aide aussi au niveau psychologique. Mais de permettre à tout le monde de prendre ces grosses drogues dures-là, comme la meth, exemple, les résultats en bout de ligne sont catastrophiques. Je peux pas croire qu'on y pense encore à déjudiciariser ça.
Mais tu vois, tu as deux écoles de pensée là-dedans. Tu as l'école de pensée de Yann Marceau et je pense de la majorité des citoyens au Québec que ça n'a pas de maudit bon sens. On est rendu là. On est rendu que c'est plus le pot, là, on est rendu avec la cocaïne, l'héroïne. L'héroïne dans un moindre... il y en a beaucoup moins, là. Mais de la méthamphétamine, il y en a.
Crystal meth, il y a encore eu des grosses saisies dans les derniers jours à Québec.
Fentanyl, etc. Oui. Tu sais, c'est de la... comme tu dis, ça cause des dommages épouvantables. J'en ai vu du monde pas dedans, du monde amoché par rapport à cette drogue-là, puis vous aussi.
Puis ça prend des ressources. Ça prend des ressources à l'hôpital.
Oui. Mais là, t'as ta deuxième école de pensée qui, encore une fois, est due à cette politique-là, cette loi-là, ce projet-là, qui est le droit à la deuxième chance, la réhabilitation, les mesures transitoires. Bon, maintenant, laquelle choisir? Avant de parler de mon exemple, d'où c'est que ça vient, ce projet de loi-là? Tu en as parlé, ça vient de Vancouver. Au BC, il y a surtout dans le centre-ville, pour ceux qui sont déjà allés à Vancouver, c'est épouvantable. Il y a des junkies partout, au sol, tu as de la misère à marcher, tu en vois à tous les coins de rue. Le gouvernement, à ce moment-là, se sont dit « OK, c'est beau ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un projet de loi du mois de janvier 2023, ça fait pas très longtemps, là, jusqu'en janvier 2026, où c'est qu'on va décriminaliser, je l'ai bien dit, toutes les personnes qui sont en possession simple de stupéfiants de 2,5 grammes et moins, en ce qui a trait à la cocaïne, entre autres. Et puis, c'est en cours actuellement. Nous, au Québec, on a dit « Hey, c'est pas fou, cette idée-là ». Même si on est loin de ressembler à Vancouver, on va faire la même chose de notre côté. Donc, on a parti ce projet de loi-là qui s'appelle la DRO-1 au niveau du DPCP, des procureurs, qui est de déjudiciariser la possession simple. Et ça a débuté au mois d'avril 2023. Il y a certaines exceptions qui s'appliquent. Et encore là, tu sais, on est au tout début de ça. Et j'ai parlé à un procureur avant de venir voir, savoir ce qu'il en pensait. Et évidemment, il ne voulait pas que je nomme son nom. Mais en gros, c'est du cas par cas. Donc, les exceptions vont être surtout en ce qui concerne les risques pour la sécurité publique. Présence de mineurs. Vous avez de la drogue, vous êtes en présence d'un mineur. Oubliez ça, vous allez être accusé. Dans un milieu scolaire, vous allez être accusé. Si vous êtes conducteur d'un véhicule, vous avez de la drogue sur vous, vous allez être accusé. Dans un milieu de travail avec un risque pour la vie, la sécurité, un gars de la construction, par exemple, qui travaille sur des échafauds, vous allez être accusé. Dans les prisons, les hôpitaux, les groupes de thérapie, même chose. Ce sont les exceptions, mais comme je vous dis, c'est du cas par cas. Dans mon ancienne vie, les trois dernières années de ma carrière, quand j'étais responsable de la division d'intervention sur le crime organisé à Québec, qu'on couvrait l'est de la province, on allait souvent sur la Côte-Nord. Je vous donne un exemple concret pour vous démontrer ne serait-ce que l'impact que ça apporte au milieu policier. On vous parlait de mon ancien milieu. Donc, on allait souvent faire les bars. Quand je dis faire les bars, c'est un peu comme l'escouade grippe. On avait une présence policière, on était une équipe de 10. On faisait tourner des bars. Et un des buts de cette opération-là, c'était pas seulement la visibilité, mais c'était de réussir à attraper des gens en possession de drogue. Un, pour les accuser. Et souvent parce que ces gens-là vont nous amener de l'information pour aller chercher plus gros qu'eux autres.
OK. Est-ce que vous étiez tous des gars de Québec qui partaient vers la Côte-Nord?
Oui, on était une escouade spécialisée de Québec qui couvrait toute l'est de la province, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Puis vous partiez pour combien de temps?
Ah, des fois, on partait une semaine. Moi, ma femme, elle pourrait vous le dire, les trois dernières années de ma carrière, je n'étais pratiquement jamais chez nous.
Okay. Tu dormais à l'hôtel avec toute la gang.
C'est ça, on dormait à l'hôtel.
Il y a des coûts associés à ça aussi. Là.
Oui, oui, c'était très, très cher. Puis il y a beaucoup de temps supplémentaire aussi. Ouais. Mais par contre, on parle de la guerre entre les trafiquants de drogue, les motards. On était en plein là-dedans, ou à tout le moins au tout début. Encore aujourd'hui, mon ancienne gang est encore à cette île. Rien que vous démontrer à quel point c'est important. Mais le but, c'est vraiment de recueillir de l'information pour aller chercher les têtes dirigeantes.
Parce que c'est plus facile dans ces régions-là?
Non, parce que vraiment, cette île, ces temps-ci, puis Baie-Comeau aussi, c'est vraiment des villes qui sont touchées par cette guerre-là, où c'est qu'il y a beaucoup d'incidents, un peu comme on voit sur la rive sud de Québec, en Beauce. Mais là-bas, c'est pas encore réglé. T'sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça s'est beaucoup calmé. Mais t'as encore une bonne guerre au niveau de la Côte-Nord puis dans le Bas-Saint-Laurent pour le contrôle du trafic des stupéfiants. Donc, je m'en vais à Baie-Comeau, cette île avec ma gang. Je reçois un appel du directeur du poste de police de Port-Cartier. Dans ton coin, oui.
Dans mon coin, mais oui.
Il m'informe, pour faire une histoire très rapide, qu'il y a un trafiquant de stupéfiants qui ont beaucoup de difficultés à appréhender. Ils vendent dans les bars, donc ils rentrent un peu dans ma sphère d'activité. Et ils voudraient qu'on fasse un tour dans ce bar-là, puis qu'on essaie de l'attraper. Donc, je dis, il s'appelle Pierre Bilodeau. Je dis, c'est beau, Pierre, envoie-moi toutes les informations que tu as sur ce gars-là, sa photo, le bar où est-ce qu'il vend, et aussi son adresse personnelle, sa voiture, tout le kit. On monte, on fait Baie-Comeau une journée, on fait Sept-Îles l'autre journée, et finalement, Sept-Îles, il est rendu 2h15 du matin, et pour ceux qui le savent, Sept-Îles, Port-Cartier, c'est environ quoi, Audrey? 45 minutes?
C'est à peu près 45-50 minutes, oui.
45 minutes. Et là, j'ai encore cette mission-là dans ma tête, mais c'était plus long que prévu, Sept-Îles. On se dirige à Port-Cartier, il est, je vous dirais, 2h45 à peu près du matin. Mon collègue et moi, on intercepte une jeune fille qui finit par nous dire que, justement, elle s'en va dans ce bar-là acheter de la drogue à notre sujet. Et en même temps que j'appelle mes gars qui sont déjà sur les lieux pour les informer que le sujet est là, ils m'informent que, justement, ils viennent de le prendre en flagrant délit en train d'essayer de vendre de la cocaïne à un groupe d'individus. Bingo, la mission est accomplie, on l'a arrêté. Le gars, il y a un dossier judiciaire de trafic de stupéfiants qui date de 20 ans. C'est un gars que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été capables de pogner, mais que tout le monde dans la place savent qu'il vend des stupéfiants, et nous autres, on l'a. Envoie le dossier au procureur de la Couronne. 3 mois plus tard, reçoit un refus d'intenter les procédures suite à une quantité insuffisante ou minime de stupéfiants. On l'avait pris avec 2 grammes de cocaïne.
Et vous avez travaillé dans le vide.
Donc, on a travaillé dans le vide. Non seulement on a travaillé dans le vide, on s'est déplacé. Ça a coûté du temps à homme, tu parles de budget. Ça a coûté également faire un dossier de possession simple de stupéfiants. Là, ceux qui pensent que ça prend une demi-heure sur le coin d'une table, là, c'est faux. Il faut prendre la drogue, il faut l'envoyer à l'analyse à Montréal pour recevoir un rapport à l'effet qu'effectivement, c'est pas du sucre, c'est pas du sel, c'est vraiment de la cocaïne. Il faut remplir le rapport de demande d'intenter les procédures, le soumettre au procureur, sans compter que le gars, il est arrêté, il est détenu, il est interrogé. On a du temps homme là-dedans. Et moi, j'apprends cette loi-là, la DRO-1, ce projet de loi-là, de même. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et là, je fais des recherches et j'appelle des gens. Et finalement, j'apprends que, ouais, c'est une nouveauté. Et finalement, ça va être du cas par cas. Et là, par la suite, on a arrêté d'autres. Et toujours le même résultat. Ah non, quantité de drogue infime, on poursuit pas.
Mais moi, c'est la raison pour laquelle je trouve ça niaiseux, le fait de penser à décriminaliser, parce que dans ma tête, ces vendeurs-là sont pas innocents. Là. Ils vont s'organiser pour pas être pris avec plus que la quantité permise.
Voilà, ils le savent. Ils suivent ces projets de loi-là. Et là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais Danny, tu devrais peut-être même pas en parler à la radio. Tu es en train de les informer. » Qui ont le droit d'avoir 2,5 grammes et moins sur eux autres. Mais moi, ce que je veux démontrer, c'est que ça... Regarde, je vais leur donner mon opinion. Je suis du même opinion que toi, Yann. Ça n'a pas de bon sens. Un, informer les policiers avant de sortir un projet de même, et non par la suite. Et deux, éviter de nous faire travailler dans le vide.
T'sais, c'est pas comme si vous manquez de job, mettons, là. Fait que de vous avoir au moins aux bonnes places, là.
On va se concentrer sur d'autres choses. Tout simplement.
C'est ça. Ils mettront pas tous les hommes sur ce type de cause-là parce qu'à un moment donné, ça donne rien. Ils sont pas capables de les poursuivre en cours puis les faire déclarer coupables. Donc, de se concentrer peut-être sur quelque chose qui va valoir peut-être plus la peine. Je veux revenir sur le fait que vous avez intercepté une jeune fille qui s'en allait justement à ce bar-là.
Oui.
Qui vous a dit, ben oui, je m'en vais chercher de la drogue à ce bar-là.
Oui.
Ça arrive-tu souvent, ça, ces gens-là que tu rencontres qui disent la vérité?
Ben, ça, c'est un... Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais une jeune fille qui a 18 ans, il est 2h45, elle est seule dans son véhicule et elle a 100$ dans ses... Même pas dans ses poches, dans ses mains, qui est sur le bord d'arriver au bar. On fait notre chance un peu. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. On se doutait bien qu'elle allait faire une transaction. Et le but, c'est pas nécessairement d'arrêter les consommateurs. Nous, ce qu'on veut, là, je parle vraiment du crime organisé, des enquêtes, c'est arrêter les trafiquants, ceux qui vendent la drogue. Donc, elle, ça aurait donné de quoi? De toute façon, elle n'a pas commis d'infraction. Elle s'apprêtait à en commettre une. Donc, nous, on voulait vraiment se concentrer sur ce gars-là.
Ouais, t'es vraiment franche, là. Quand tu fais des interceptions, ou du moins au début de ta carrière, quand tu faisais des interceptions comme policier, est-ce que les gens étaient tout le temps extrêmement francs? Je sais pas, moi. Ils roulaient à 110 km/h d'une zone de 70. Bon, et c'est quand même, il est quand même au-dessus de la limite pas mal. Il te sortait-tu tout le temps une multitude de « Ah, ben là, j'étais pressé. Ah, j'ai pas vu que j'allais à cette vitesse-là. Ah, ben non, monsieur, j'allais pas à cette vitesse-là. Je suivais le véhicule en face de moi. » Qu'est-ce qu'il faut faire lors d'interceptions routières, tu sais? Moi, j'ai tout le temps été du type un peu « friendly ». Puis honnêtement, Audrey, c'est pas la première fois que je le dis, là.
Ça marche.
En étant poli et friendly, je me suis sauvé de plusieurs contraventions.
Même place que toi.
Puis si, admettons, je me faisais prendre à 10-20 km/h au-dessus de la limite permise, ben si j'avais pas mon papier d'immatriculation, ben il allait me donner un billet de contravention pour mon papier d'immatriculation qui était de 50-60$, mais il allait pas me donner mon excès de vitesse.
Ouais. Mm.
Parce que j'avais une façon polie de lui parler.
Et c'est la base. C'est la base. Là, j'ai le goût d'être généreux envers les auditeurs. Je vais vous donner des conseils lors d'interactions avec les policiers dans diverses situations. On va débuter avec les interceptions routières pour maximiser, on va le dire de même, vos chances de ne pas avoir de constat d'infraction. Je ne vous fais pas de promesses, mais vous allez voir, la majorité des conseils, vous les connaissez. Maintenant, il faut les appliquer. Première des choses, c'est jamais le fun de se faire suivre par un véhicule de police. Moi-même...
Et que c'est stressant.
C'est stressant. Et? Puis moi-même, ça me stresse. Puis pourtant, j'ai été policier pendant 26 ans et demi.
C'est fou parce que je pense pas que c'est l'effet qu'un policier veut avoir de base. Mettons qu'on revient à la base du métier de police où tu es censé protéger la population. On devrait se sentir en sécurité d'avoir une police près de nous, mais tout le monde capote sa route quand t'en as une pas loin, là.
Oui, bien, d'ailleurs, ça fait du bruit, là. C'est très visible aussi quand tu regardes ça dans tes rétroviseurs. Mais quand les producteurs radio mettent des sirènes à l'intérieur des publicités, tout le monde est sous stress, là.
Ben oui, il y a des ils ont interdit à un moment donné le fait de mettre les sons de sirène dans les chansons aussi.
Mais là, ils ont recommencé depuis 2 ans. Là. Il y en a qui ont recommencé à mettre des sirènes de police dans les publicités. Puis à chaque fois, tu regardes dans ton rétroviseur puis tu as l'impression que le cœur veut te lâcher. C'est que j'ai fait.
Donc, je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Mais moi, ça me stresse encore. On se pose tout le temps la question, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? On va regarder si sa ceinture est attachée.
Même comme
je voulais
policier.
Trop vite. Même quand j'étais policier.
Vous évitez pas étiquette, vous autres?
Écoute, ça pourrait être un autre débat,
autre sujet. Je trouve que c'est une question très pertinente.
je trouve qu'elle vaut la peine d'être posée.
Est-ce que tu as déjà eu des collègues qui ont sorti leur batch quand ils se faisaient intercepter, Danny?
OK.
On le sait que ça arrive.
Est-ce qu'il disait « Salut, confrère »
C'est sûr que oui, vraiment. Ou il laisse sa badge vraiment visible là, sur le banc d'à côté, tu sais. Ouais.
Je vais vous conter une anecdote pour répondre à votre question. Là.
Vas-y.
À la fin des années 90, le policier qui donnait un constat d'infraction à un de ses collègues de travail, même s'il ne le connaissait pas, là, exemple, un policier de, je vais dire n'importe quoi, SM Mirabel donnait un constat d'infraction à un policier de la Sûreté du Québec. Le lendemain, là, on avait des fax, là, et le constat d'infraction là, était imprimé et envoyé dans le fax dans tous les postes de police. Fait qu'on savait c'était qui les policiers pas corrects qui avaient donné un constat d'infraction aux autres policiers.
Fait que tu ne pouvais pas faire respecter genre la loi, là. Fallait comme... Oh, mon
attends
Dieu,
un peu, là,
correct.
Ça fait au-dessus de 25-26 ans.
Oh oui, les temps ont changé, hein, Danny?
Sûrement.
Non, les temps n'ont pas changé. Je vous dirais qu'on fait très attention. On a quand même une nouvelle génération de policiers qui est formée pour que... Et là, je suis très prudent dans mes propos pour faire respecter la loi, mais on a un pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait au pénal. Donc, ça va être excessivement rare, pour être franc et transparent avec vous, qu'un policier va donner un constat d'infraction à un autre policier. Il va falloir que le policier ait été moyennement baveux puis qui a vraiment fait une infraction épouvantable.
Puis peux-tu te vanter, mettons, que, je sais pas, là, ton mari est policier quand tu te fais arrêter? Tu sais, ça marche-tu par... tu sais, mettons que j'ai quelqu'un dans la famille qui est policier, ça marche-tu par personne...
Ben, OK, je vais vous donner un conseil, les auditeurs, là. Si vous avez un ami, là, ben, prenez sa carte d'affaires, un ami qui est policier, là, mettez-la à côté, vous allez pouvoir me conduire. Moi, ma femme, elle a toujours ma carte d'affaires, là. Elle la montre pas, là. Elle la montre pas, mais quand elle sort son permis de conduire, ah, regardons ça, il y a le logo de la Sûreté du Québec. C'est certain que le policier est curieux, il va poser des questions.
Puis des fois, il y a des affaires weird qui se passent, Audrey. Puis je sais pas, je te l'avais déjà raconté, j'ai une amie qui est chimiste, OK? Puis elle est allée faire une transaction, elle s'est acheté un véhicule. Puis tout ça s'est fait par Internet, là, avec le fameux « ça clique ».
Ouais.
Puis tout était fait en bonne et due forme. Deux ou trois jours plus tard qu'elle ait acheté son véhicule, elle a quand même, Mel, elle a quand même les cheveux très, très courts, là. Petite coupe garçonne, OK?
OK.
Puis là, ben, elle se fait intercepter par un véhicule de la Sûreté du Québec. Et la dame qui l'intercepte dit « votre immatriculation n'est pas dans nos... est pas dans notre ordinateur. Je suis pas capable de vous trouver. Est-ce que vous avez vos papiers? »« Ah oui, j'ai les papiers, tout ça. » Elle est allée dans sa voiture, elle a fait des vérifications, puis elle va dire, elle est revenue en disant, OK, c'est beau, je sais t'es qui, je t'ai pas supposé t'intercepter, tu peux partir, je vais faire comme si c'était rien passé. Ce qui a laissé présager à Mel que la policière pensait qu'elle, c'était undercover, là.
Ah, oh, mon doux!
Qu'elle avait un véhicule de parce que c'est vrai que ça ressemble, son véhicule ressemble beaucoup à un véhicule de police qu'il utilise là, pour faire
mais
des,
c'est spécial,
des
petits hein?
suivis. Ouais. Fait qu'elle est repartie, puis elle dit, OK... Mais c'est une chimiste, là.
Ah, oh, ça a comme pas rapport pantoute, là.
Ben, ça a pas rapport, sauf qu'elle, elle travaille pour une entreprise privée qui fait affaire avec la Sûreté du Québec pour des analyses chimiques.
Ouais.
Mais ça a aucun lien avec son travail, sa voiture personnelle.
Mais je trouve pas ça correct. C'est pas... chier pour tous ceux qui ont pas de parenté police.
Ouais. Les gens, il y a des gens, normalement, quand tu te fais intercepter, OK? Tu te tasses à droite, OK?
Ouais.
Tu fais attention, tu te tasses à droite. Si tu es capable, s'il y a une entrée de stationnement, tu t'en vas dans l'entrée de stationnement. Tu essaies de te protéger, de protéger la police le plus possible. Fait que tu te mets à l'écart. Il y a des gens qui ont le mauvais réflexe de se tasser à gauche.
Oui.
Ce qui est une idée de marde, là.
Je veux dire, t'es sur le boulevard.
Oui.
Tu te tasses, qu'est-ce que tu fais?
Oui, effectivement, ça fait partie des conseils.
C'est stress.
Mais oui, regarde, pour être franc, ça va être excessivement rare d'avoir un constat d'infraction. On va peut-être avoir une petite morale, puis on n'est pas fiers de ça là, comme policier. Là. Moi, je respecte autant que possible les limites de vitesse. Je fais mes stops, tout les feux rouges, tout ça. Puis quand on se fait intercepter, on est mal à l'aise, là, puis on ne montrera pas notre badge. On va discuter un peu avec le policier, puis à un moment donné, on va essayer de glisser dans la conversation. Si tu plates, tu sais, je suis un de tes collègues, mais à ce moment-là, c'est certain que c'est gênant aussi comme policier de donner un constat d'infraction à un autre policier. Ça va dans deux sens. Mais, comme j'ai déjà dit, le boulanger paye son pain moins cher. Peut-être que vous avez certains avantages à la radio que moi, j'ai pas.
Ouais, oui, mais là, je pense que là où ça dérange les gens, c'est que tu payes ton pain moins cher, c'est du pain, Danny. Mais là, on parle de la loi, tu sais, on parle du code de conduite sur la route. Tu sais, le téléphone au volant, mettons, là, tu sais, j'imagine qu'un policier qui est pas en uniforme, que son téléphone au volant va l'éviter l'étiquette. Mais tu sais, c'est aussi dangereux, on s'entend, t'es pas en service, tu sais.
Oui, oui.
Là, je me fais le diable en passant, là. Je pense que tout le monde le savait, là.
Tu penses que tu te faisais l'avocat du diable?
Mais non, c'est quoi j'ai dit, là?
Ouais. Puis c'est correct. Puis tout le monde m'appose cette question-là.
C'est normal.
Est-ce que de mentir aux policiers, ça peut aider? C'est-à-dire, ah, ma conjointe, je suis vraiment désolé, là, ma conjointe est enceinte, là, je m'en vais vers l'hôpital. Tu sais, le flic, il va-tu me suivre jusqu'à l'hôpital pour
absolument.
Vérifier?
Oh, ouais, hein?
Je l'ai déjà fait.
T'as suivi le gars jusqu'à l'hôpital?
Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ma femme a fait une crise de cœur et puis elle est sur le bord de mourir, puis c'est pour ça que je suis pressé, puis je m'en vais à l'hôpital. Je dis, ben pas de trouble, moi même t'aider, je vais t'escorter avec les lumières puis tout.
Et là,
fait que là, il était comme mal à l'aise. Je dis, go, on s'en va à l'hôpital Enfant Jésus. On est parti en fou, il me suivait en arrière. Mais sauf que le problème, c'est que je suis débarqué avec lui.
Oh non, non, non.
Dites-vous une chose, là, un policier patrouilleur, là, dans une journée normale, va intercepter en moyenne 10 véhicules. Fait que tous les mensonges, là, faites le calcul, là, 200 jours de travail par année, là, ça fait 2000 interceptions. On les a tous entendus. On connaît les répliques à
tout. Ma mère est tombée dans le bain, elle a presque perdu connaissance.
Ben, on va appeler l'ambulance.
Je pense que j'appellerai ma mère puis je dirais « Installe-toi dans le bain, puis... »
Donne-moi l'adresse de ta mère, on va appeler l'ambulance. Écoute, il n'y a rien de pire que de mentir à une police. Là-dessus, je pense qu'on devient des excellents détecteurs de mensonges.
Ouais.
Mais pour revenir au sujet, pour maximiser vos chances de sauver un constat d'infraction, tu en as parlé, Yann, effectivement, la première des choses, là, si vous faites intercepter, là, paniquez pas, là, c'est pas la fin du monde. Le policier, il veut rien que peut-être faire une vérification. Toujours, toujours se ranger à droite de la route. toujours vous placer. C'est mon cellulaire. Je suis désolé.
Ça, Danny, c'est pas parce que c'est une police qu'on va accepter ça, hein, parce que nous autres, le téléphone en
Si je suis pas d'accord avec l'attitude du policier, j'ai-tu des... Est-ce que je lui dis?
Ben, absolument, vous avez le droit. Puis, tu sais, le policier qui est cocky un peu, qui est arrogant ou qui vous donne des explications qui font pas votre affaire, vous pouvez argumenter avec lui, mais... Tu sais, gardez pas ça pendant une demi-heure de temps. Envenimez pas la situation.
Parce que c'est sûr que tu vas l'avoir, ton ticket.
Parce que c'est sûr que tu vas avoir ton ticket. À ce moment-là, moi, ce que je vous suggère, si jamais vous n'êtes pas satisfait du comportement, de l'attitude d'un policier, appelez au poste de police, demandez à parler à son supérieur. Et si vous... Souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais le supérieur, tu sais, il connaît le policier puis il ne blâmera pas tout ça. » À la limite, vous pouvez déposer une plainte en déontologie. À ce moment-là, ça peut se faire via Internet ou via un formulaire Internet, mais il faut vraiment qu'il y ait eu une attitude qui est reprochable.
Hey, autre chose, Danny, si, je sais pas, moi, j'ai un impact avec un autre véhicule, puis ça, je pense que tout le monde devrait lever le son, là, surtout ceux qui ont comme l'habitude de dire « Non, on appelle la police. » On est-tu obligé de tout le temps appeler la police quand les deux véhicules, c'est que des égratignures? Le constat à l'amiable peut sortir du trouble bien du monde, puis tu prends des photos avec ton cellulaire maintenant, c'est assez facile, plutôt que de rester en plein centre du chemin, tu sais, sur l'autoroute, mettons, à l'entrée des ponts, là, ils restent en plein centre, ils se sont juste tamponnés un peu, puis là, ben, ça demande l'intervention d'un véhicule de la Sûreté du Québec. Ces gens-là, là, ils peuvent-tu juste se tasser sur le côté et déplacer leur véhicule puis être tout à fait crédible devant les policiers, si les policiers sont appelés sur place par la suite?
Bien, la règle, là, c'est que le constat à l'amiable a la même valeur qu'un rapport d'accident policier. Donc, si vous, ça va aller aussi vite, même plus vite dans certains cas, que si vous faites faire un rapport policier qui va exiger un déplacement policier, la rédaction du rapport, etc. Moi, ce que je vous dis, souvent, ce qui arrive, c'est que là, les compagnies d'assurance, ils aiment bien avoir des rapports policiers, eux, parce qu'ils trouvent que c'est plus formel. Si jamais l'assurance vous rappelle et vous dit « ça me prend absolument un rapport de police par rapport à cet accident-là », il n'est jamais trop tard pour retourner au poste de police et dire « mes assurances m'exigent un rapport policier ».
Ah, OK, ça va être fait quand même.
Ça va être fait quand même.
Tu parles de temps, Danny. On trouve toujours que c'est long quand on se fait arrêter ou quand il arrive quelque chose.
Oui.
Ça prend combien de temps en moyenne? Si tu... Faites-vous exprès? Il y a des gens qui sont comme « Ah, je suis 30 minutes en retard, je me suis fait arrêter. » Est-ce que vous étirez ça pour le fun ou c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de temps?
OK. Là, on parle pas d'arrestation, mais d'interception.
Oui.
Parce que là, il y a une grosse différence entre les deux. Lorsque vous faites intercepter sur la route, il faut être patient. Soyez patient à l'intérieur de votre véhicule et surtout, restez à l'intérieur de votre véhicule. Il n'y a rien de plus fatigant pour un policier que quelqu'un qui sort, qui rentre à l'intérieur de son véhicule pour deux choses. Première des choses, c'est sa sécurité à lui. On parle d'une autoroute, admettons. L'individu qui sort de son autoroute, c'est tellement dangereux, ça va tellement vite que lui, il tombe un peu sur notre responsabilité au moment où c'est qu'il est intercepté. D'où l'importance de rester à l'intérieur de votre véhicule. Deux, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. Et nous, les policiers, ce qu'on fait comme policier, on surveille toujours les mains. En regardant les mains, en les visualisant, on est en mesure de contrôler l'individu. Vous me suivez? Mm-hmm. Donc, faites jamais de gestes nerveux, mettez jamais vos mains dans vos poches. Essayez de rester à l'intérieur de votre véhicule. Les policiers aiment beaucoup lorsqu'on arrive, on voit vos mains. Puis que vos trois documents, on vous demande toujours les trois mêmes documents. Permis de conduire, certificat d'immatriculation, assurance. Vos documents, là, préparez-les. Mettez-les, je vais vous donner une suggestion, là, souvent le pare-brise, là, où est-ce qu'il y a le miroir, là, mettez-les là. À ce moment-là, nous, ça nous permet de voir vos mains. Et puis, vous êtes déjà prêts. On vient de sauver énormément de temps. C'est beaucoup moins fatigant que si vous mettez à fouiller dans vos poches, sortez votre permis de conduire ou fouillez dans le coffre à gants. On le sait pas, il y a peut-être un arme à feu à l'intérieur du coffre à gants. Ça nous met beaucoup plus nerveux.
Tu sais, mettons, je me fais intercepter sur la rue Saint-Jean, puis là, ben, je me gare sur le côté, puis je suis à côté du trottoir. Pendant la vérification puis l'émission de la contravention, je peux-tu rester sur le trottoir? Puis si le policier me demande de rentrer dans le véhicule, je suis obligé de rentrer dans le véhicule s'il me le demande? Techniquement, non.
Techniquement, non, parce que vous n'êtes pas en état de détention, en état d'arrestation. Mais s'il vous demande de rester à l'intérieur du véhicule, c'est parce qu'il y a sûrement une bonne raison.
Si je me fais intercepter, puis j'étais avec Audrey. Audrey sur le banc du passager, je me fais intercepter. Bon, moi, je suis en possession du véhicule, donc je dois donner mon identité. Est-ce que l'autre personne, si elle se fait demander sa pièce d'identité par un agent, est-ce qu'elle doit donner son identité ou elle peut juste dire « ben moi, je peux refuser ».
Tu n'étais pas là, tu étais en vacances, c'était avec Pascal, on en a parlé. Lorsque vous êtes passager d'un véhicule, à moins d'avoir commis une infraction, ne pas avoir mis sa ceinture, avoir jeté par la fenêtre une top de cigarette, vous n'avez pas l'obligation de vous identifier.
Quand quelqu'un jette sa top de cigarette par la fenêtre, c'est
une infraction au code de
la route. C'est une infraction? Ah oui.
Vous devriez donner plus d'étiquettes.
Oui, mais...
Hey, moi, je reçois un botch de cigarette dans la face.
Et c'est insultant.
En moto.
Ah! Arrête en plus!
Ah oui. Il était avec sa belle MX Mazda MX quelque chose, là. Oui. Puis en décapotable. Puis il a pitché sa cigarette. Moi, je passais en arrière, je l'ai reçu d'en face.
Ah! Mettons que tu jettes une pomme là, dans le bois. Là.
C'est la même infraction.
C'est une infraction aussi, même si ça se
t'as
dégrabe,
pas le droit
si
de rien. T'as pas le droit de rien jeter.
Fait que tu peux arrêter de le faire tout de suite.
Oui, il faut que t'arrêtes.
Oui, je l'ai déjà fait. On l'a tout déjà fait, je pense.
Il y a quand même une raison pour laquelle les policiers demandent pratiquement toujours l'identification du passager du véhicule. C'est une question, pas rien que pour savoir c'est qui la belle-fille qui est assise à droite, ou c'est vraiment une question de sécurité, pour savoir à qui on a affaire. Mm. Mais au niveau de l'obligation de s'identifier, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, moi, ce que je vous suggère, si vous n'avez rien à vous reprocher, là, donnez-la donc votre permis de conduire. T'sais, au lieu de commencer à niaiser à la police, ça va rien rallonger l'intervention.
Dany Morissette, on n'a pas eu le temps de passer à travers tout le dossier qu'on voulait faire aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que Dany Morissette est un ex à la Sûreté du Québec. Il était au crime majeur, puis il vient nous voir une fois de temps en temps. C'est toujours un plaisir de te recevoir, mon ami.
Pareillement.
Tu reviendras dans quoi, 2 semaines? C'est-tu réglé déjà?
2 semaines. C'est toujours réglé. T'es au calendrier dans 2 semaines, Dany.
Mais oui, puis si jamais les auditeurs ont des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde, de la curiosité...
Ouais.
Gênez-vous pas. On n'est pas à bout de chronique, mais on va continuer là-dessus.
Merci, Dany. On s'arrête 11h16. On revient. Rage Against le
matin. Farnell Morissette est avec.